Actu SF, les podcasts.
Donc bonjour à la foule en délire, hein. Voilà, c'est spontané comme van maintenant au moins. Bien, ben, écoutez, ça va être un cours particulier, parfait. Ah, les gens veulent rentrer, attends un petit peu. Entrée, ça n'a pas commencé. Bien, je me présente, je m'appelle Thierry Bosque, je travaille au LAS, un laboratoire de recherche du CNRS à Toulouse, comme mon accent peut vous le laisser supposer. Voilà, si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est normal, je parle à peine français, hein, je parle toulousain. Donc n'hésitez pas à me faire répéter dans ces cas-là si mon accent est un problème. Bien, je précise que j'ai vécu 7 ans à Nantes quand même, mais bon, ça c'est autre chose. Donc je vais vous parler du laser et je vais essayer de vous faire de démythifier un petit peu le laser par rapport à ce que l'imagerie populaire de la science-fiction a pu transmettre. Et puis je vous expliquerai à la fin pourquoi le sous-titre du cosmos à microcosmos, le peuple de l'herbe, qui peut surprendre, d'ailleurs il est fait pour ça. Voilà, donc j'essaierai de vous expliquer un petit peu tout ça. Alors déjà, de manière très très simplifiée, on va essayer de regarder un petit peu comment marche cette espèce de petite bête qu'on appelle le laser. Alors vous avez typiquement des matériaux qui présentent deux niveaux d'énergie, E1 et E2. Quand vous leur fournissez un apport énergétique extérieur, c'est-à-dire en gros vous les branchez au secteur par exemple, ou vous en mettez une pile, ben vous allez pouvoir arracher les électrons. Est-ce que j'ai le fil assez long là ? Je vais tout arracher. C'est bon, c'est assez long. Vous allez pouvoir arracher les électrons du niveau E1 et les amener au niveau d'énergie E2. En gros, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez donné de la force à l'électron pour qu'il grimpe sur un mur. Mais ce mur, il est vachement étroit. Et donc, l'électron, ben, il est bien content parce qu'il est en haut du mur. Mais imaginez, il est un peu dans la position du funambule. C'est-à-dire que ce n'est pas une position très, très stable. Et donc, ce qui va se passer, c'est que naturellement, notre petit électron, ben, il va redescendre au niveau du sol. Et quand il va redescendre au niveau du sol, ben, il va émettre, quand on a des transitions que l'on appelle radiatives, il va émettre un photon, c'est-à-dire un grain de lumière. C'est-à-dire que notre électron va se désexciter de ce niveau qui est métastable. Il va revenir vers son niveau stable. Et à partir de là, il va perdre l'énergie qu'on lui avait fournie sous la forme d'un grain de lumière. Ce grain de lumière va nous donner ce qu'on appelle la fréquence optique. La fréquence optique est donnée par la différence entre les deux niveaux d'énergie E1 et E2 du matériau choisi, divisé par la constante de Planck. Alors, il n'y aura pas beaucoup d'équations, je vous rassure. Simplement, ça veut dire que ce qu'on appelle la fréquence optique, c'est d'une certaine manière la couleur du laser, qui va dépendre typiquement de la différence entre ces deux niveaux d'énergie. Donc, suivant le matériau que vous allez choisir, ben, vous allez émettre du bleu, du vert, du rouge, de l'infrarouge, et ainsi de suite. Donc, c'est juste le matériau qui va créer la couleur. Donc, ça, c'est le principe qu'on appelle d'émission spontanée. Et c'est marqué dessus, c'est le principe des diodes électroluminescentes, donc des lampes que vous pouvez avoir. Maintenant, si on veut aller un tout petit peu plus loin dans la complexité, les LED c'est très bien, mais les LED émettent en général dans une gamme de couleurs assez vaste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule longueur d'onde, une seule couleur qui est émise, il y a une largeur de spectre qui est assez importante, et surtout la LED ce n'est pas quelque chose de cohérent. Je vais vous expliquer ce que j'entends par cohérence. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle l'émission stimulée. Imaginez maintenant, pardon, vous avez ce qu'on appelle une cavité laser qui va être modélisée par exemple par deux miroirs. On a de l'émission spontanée, comme une diode électroluminescente au départ, et puis donc il va y avoir émission d'un photon, et ce photon va être émis en direction ici du miroir, et va être réfléchi et renvoyé dans le milieu qu'il a généré. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que notre petit photon, ben, il va rencontrer des électrons qui sont bourrés d'énergie, qui sont en haut du petit mur instable, et il va le percuter, entre guillemets. Et qu'est-ce que ça va donner ? Ben, ma foi, l'électron va redescendre ici, au niveau du sol, donc au niveau d'énergie E1, et il va y avoir émission de deux photons qui sont strictement identiques. C'est-à-dire qu'ils vont avoir les mêmes propriétés, ils sont similaires. Imaginez donc un photon qui en crée deux, Puis les deux photons sont là aussi réfléchis par l'autre miroir, retraversent le matériau, 2 vont donner 4, 4 vont donner 8, et ainsi de suite à l'infini, quasiment à l'infini. Et c'est ce qu'on appelle l'émission stimulée, c'est-à-dire que l'on va multiplier des photons identiques à eux-mêmes. Donc ça, c'est une propriété très particulière des milieux radiatifs laser, ce qui permet d'avoir des photons identiques, donc des photons qui sont en phase les uns par rapport aux autres. Et à partir de là, vous allez créer un très grand nombre de photons, ce qu'on appelle le seuil. Quand vous franchissez notamment le courant de seuil, quand vous franchissez le nombre de photons adéquat, le faisceau laser va avoir suffisamment de puissance pour sortir et être émis en direction d'une cible. Voilà comment ça va fonctionner vraiment avec les mains. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, et surtout, là on est en tout petit comité, donc ça peut être beaucoup plus sympa. Entre parenthèses, la personne qui a inventé, qui a mis en exergue l'émission stimulée, est un chercheur, pas très très connu, c'est Albert Einstein, je crois, un gars pas très connu, il n'a pas travaillé que sur la relativité, il a aussi travaillé sur la mise au point des lasers. Alors un laser, ça ressemble à quoi dans la vraie vie? Vous pouvez avoir des lasers assez anciens. Là, ce sont des lasers à gaz. Donc imaginez, vous avez deux miroirs à chaque bout, et entre les deux, un gaz qui présente ses propriétés de deux niveaux d'énergie radiatifs, E1 et E2, qui vous donnent la couleur. Donc là, ça va être typiquement un laser hélium néon qui va émettre dans le rouge, à 633 nanomètres. Et puis, de manière plus récente, on a développé ce qu'on appelle des diodes laser, ou des lasers à semi-conducteurs. Donc, au lieu d'avoir quelque chose qui sera une cavité de plusieurs centimètres pour avoir un petit peu de puissance, vous allez confiner en fait tout dans un semi-conducteur avec une cavité active, c'est-à-dire la distance entre les deux miroirs, entre guillemets, qui sera de l'ordre de 10 à 100 microns. Donc on est passé de plusieurs centimètres à une dizaine de microns pour obtenir à peu près les mêmes choses. Là, on est dans des boîtiers qui sont dans le packaging du laser lui-même. Le boîtier va faire des dimensions entre 5 et 9 mm pour vous donner un peu une idée. Ça va ressembler à un transistor du point de vue électronique. Et donc, bien évidemment, sur les lasers à semi-conducteurs, autant ici on a vraiment des miroirs collés et du gaz à l'intérieur, autant dans ces diodes laser, on va avoir en réalité les techniques de la microélectronique qui vont permettre de recréer, je dirais, les conditions de miroir, de différence de niveau d'énergie et ainsi de suite. Mais tout va être confiné ici dans un semi-conducteur. J'ai dit tout à l'heure, c'est entre 10 et 100 microns de longueur, suivant les technologies utilisées. Donc on va avoir par exemple ici en bleu la partie que j'ai appelée la cavité active, là où ici par exemple il y avait le gaz. On va apporter de l'électricité, on va amener les électrons sur un niveau d'énergie haut. Et puis, ces électrons vont se désexciter, vont créer des photons qui vont venir ici frapper sur cette partie-là qui va jouer le rôle de miroir. En fait, c'est un poly micro-électronique, mais qui joue le rôle de miroir. Pareil de l'autre côté. Les électrons vont rebondir, vont se réfléchir, créer d'autres photons, et ainsi de suite. Voilà, pour le principe. Sauf que maintenant, on a à peu près les mêmes performances entre un laser à semi-conducteur et un laser à gaz, si ce n'est que c'est beaucoup plus compact. Et effectivement, beaucoup moins cher, typiquement, à la mise en œuvre. Bonjour. Mais émettre un photon, c'est sympa. Encore faut-il après détecter ce photon et en faire quelque chose. Donc, quand le photon va arriver toujours sur un milieu à deux niveaux d'énergie, avec un électron qui cette fois n'est pas excité, donc on n'a pas apporté d'électricité particulière, quand le photon va tomber sur un photodétecteur, vous avez des photos qui sont sur la droite ici, sur la partie bleue, la partie ronde, notre petit photon va venir percuter l'électron, va donner assez d'énergie à l'électron, qui va cette fois monter au niveau d'énergie E2. Et donc, il va participer à ce qu'on appelle communément le courant. Donc, un photon va créer un électron, et à partir de là, plus on a de photons qui tombent sur la surface, plus on a un courant important. Donc, c'est relativement simple. Dans le principe. Pour ceux qui connaissent un peu le principe du laser, j'ai effectivement simplifié, mais basiquement c'est ça. Alors c'est bien joli d'avoir de l'émission et de la réception de photons, mais qu'est-ce qu'on peut bien en faire? Alors j'ai choisi une première application qui est simple à comprendre, mais qui est assez spectaculaire. C'est que vous prenez ici, un capteur, j'ai un pointeur laser, ça l'affiche mal quand même, que parler du laser sans utiliser le pointeur, quand même, c'est pas bon. Vous avez ici, typiquement, ce genre de système, avec un laser qui va émettre des impulsions, donc un coup de canon laser, en direction, par exemple, de la Lune. Et puis, il va être réfléchi par la Lune, et il va revenir, donc les photons réfléchis, vont revenir en direction ici, vous voyez, d'une énorme optique, qui va ressembler à une optique de télescope, vous la voyez ici. Donc quelque chose d'extrêmement grand pour collecter un maximum de photons. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va simplement compter, dans ce cas de figure ici, le temps que va mettre l'impulsion pour aller de la Terre à la Lune et revenir, ce qu'on appelle le temps de vol. Donc tout simplement, on compte le temps que met la lumière pour aller du point A au point B et retour. Donc du coup, la relation mathématique, elle est extrêmement simple, puisque le temps de vol, le temps que l'on va compter, c'est la distance d'aller-retour, donc deux fois la distance d, divisée par la vitesse de la lumière. Rien de compliqué. Par contre, l'électronique, pour capter ça, ça, c'est costaud. Et quand on regarde typiquement ce qui est fait au jour d'aujourd'hui, vous avez la distance de la Terre à la Lune qui est donnée de 384 400 km. Le temps de vol correspondant, c'est 2,5 secondes. On arrive à mesurer aujourd'hui la distance entre la Terre et la Lune avec une précision de plus ou moins 5 mm, donc c'est quand même extrêmement précis. Il faut savoir qu'il y a encore 10 ans, on était à quelques centimètres, voire à la dizaine de centimètres, donc on a quand même pas mal progressé. Bon, on constate notamment un éloignement de la Lune de 3 à 5 cm par an. Je préférerais qu'on évite de me poser la question du pourquoi, parce que je n'ai pas la réponse, ça m'éviterait comme ça de vous dire publiquement que je ne sais pas. Voilà, ça s'est fait au moins, on règle ça tout de suite. Je l'ai souvent la question, donc je n'ai pas vraiment de réponse. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que, voilà, c'est ça, cette ligne-là, il faut envoyer 10 puissance 19 photons pour en récupérer un. Donc vous imaginez la puissance de tir qu'il faut pour traverser l'atmosphère, être réfléchi sur la Lune, revenir, retraverser l'atmosphère. Donc il y a énormément de pertes en ligne. Oui ? Ils sont sur le transparent suivant, donc ils arrivent. Oui ? Alors, il y a un phénomène d'absorption. On peut traverser des nuages, par exemple, des choses comme ça. Il va y avoir aussi, si on rencontre de la poussière, de la rétrodiffusion, ce qu'on appelle du backscattering. Donc vous allez perdre effectivement énormément. Vous avez aussi le fait que votre faisceau laser ne va pas rester cohérent, c'est-à-dire ne va pas rester collimaté, il va diverger énormément. Quand il va arriver sur la Lune, le diamètre sera de l'ordre de plusieurs kilomètres. Donc vous avez une perte, en fait, tout simplement parce qu'on n'est pas... On est capable d'avoir un rayon qui reste à peu près parallèle sur à peu près un kilomètre, mais ensuite l'effet de l'atmosphère fait que naturellement, de toute façon, il diverge. Et il va diverger vraiment énormément. À partir de là, c'est plus un spot, c'est une grosse patate. Et malgré tout, on arrive à récupérer des choses encore parce que vous avez ce genre de dispositif qui est effectivement lié à Apollo. J'ai pris Apollo 15, mais il y en a eu d'autres. Vous en avez 5 actuellement sur la Lune. Pardon. Ce sont des rétro-réflecteurs. Donc, ces espèces de grosses boules qui font que lorsque vous envoyez la lumière, quelle que soit votre direction de tir, la lumière repart dans la direction d'où elle est venue. Un exemple concret d'une application que vous avez pu tous voir, vous avez là typiquement les superbes vêtements de la DDE. Quand vous les éclairez la nuit, vous voyez qu'il y a une bande qui est rétro-réfléchissante. Lorsque vous conduisez la nuit, est-ce que... bonjour. Lorsque vous conduisez la nuit, vous avez déjà éclairé typiquement le bitume. Et qu'est-ce que vous avez remarqué par rapport aux lignes blanches ? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose par rapport aux lignes blanches quand vous conduisez de nuit ? Je profite de l'occasion pour enlever mon pull.
Donc ça renvoie de la lumière. Pardon, j'aurais dû le faire avant. Je voulais montrer mon t-shirt Captain America. Je profite, c'est ça, je ne l'enregistre pas, je peux le dire.
Bon, je vais donc assumer. Je profite de l'occasion pour vous montrer mon t-shirt Captain America pour l'enregistrement. Voilà. Donc, oui, ça renvoie la lumière, mais pourquoi ? Normalement, quand vous éclairez, supposez que vous avez comme une lampe torche ou des phares de voiture, vous éclairez le sol, la lumière aura tendance à partir vers l'avant. Il n'y a aucune raison que vous voyez la peinture blanche avec cette matière un peu phosphorescente, cet effet phosphorescent. Mais il se trouve que dans cette peinture blanche, vous avez des microbilles qui renvoient la lumière vers vous. Donc vous avez exactement le même type de principe que dans les vêtements que l'on peut trouver pour la DDE ou les panneaux de signalisation, par exemple. Vous avez ce genre de microbilles, alors qu'ils sont beaucoup plus petites que celles qui sont installées sur la Lune. Sur la Lune, vous voyez qu'elles ont un diamètre qui font 4 cm. Bien sûr, dans la peinture blanche, elles font vraiment de la taille de quelques microns. Mais le principe est le même. En réalité, ce sont des microprismes, pas des microbilles, parce que le rendement est un petit peu meilleur. Mais le principe est exactement le même, à savoir que, quel que soit l'angle avec lequel vous éclairez votre cible, la lumière revient vers vous et pas ailleurs. Et donc, effectivement, si on revient sur le transparent précédent, ici, vous voyez que il doit y avoir, quelque part, voilà, une lunette de visée. Voilà, la lunette de visée. Et en fait, on essaye de regarder la zone où se trouvent les rétroréflecteurs tirés dessus pour espérer avoir un photon sur 10 puissance 19 qui revienne. Sinon, c'est clair qu'on n'aurait pas grand-chose. Alors juste, on ne va pas rentrer dans les détails là non plus, mais simplement pour vous expliquer un petit peu comment ça marche la réflexion d'un faisceau lumineux. Quand vous éclairez un miroir, typiquement un faisceau, une surface extrêmement plane, vous allez avoir ce qu'on appelle la loi de Descartes, que vous avez probablement appris à l'école, de sinistre mémoire donc. C'est-à-dire que lorsque votre faisceau arrive avec un angle, mettons alpha, par rapport à la normale, il repart avec un angle alpha dans cette direction-là. Ça, c'est la réflexion de type spéculaire ou de type miroir, c'est la même chose. Et puis, vous avez exactement le contraire, l'opposé, non plus du miroir, mais du plâtre, par exemple. Donc, une surface qui va être extrêmement rugueuse, mais des petites rugosités de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde, c'est-à-dire de la couleur du laser, de l'ordre du micron, on va dire. Ben dans ces cas-là, quand vous avez des moyennes ici, des petites rugosités de l'ordre du micron, vous allez avoir une réflexion qui va être isotrope dans tout l'espace. C'est-à-dire que vous allez renvoyer la lumière de manière équivalente suivant tous les angles. Donc ça, c'est vraiment les deux extrêmes que vous allez rencontrer. Dans la réalité, on va avoir une combinaison des deux. C'est-à-dire qu'on va effectuer ici un tir sur une cible. Vous aurez une réflexion privilégiée qui va correspondre à la composante spéculaire, c'est-à-dire à la composante miroir de votre cible, et une partie isotrope qui va renvoyer l'énergie dans la direction émise. En utilisant les microbilles ou les microprismes, vous changez ces propriétés-là, et vous renvoyez tout en direction du faisceau d'émission. Donc chaque fois qu'il est possible d'utiliser des microbilles, vous savez que lorsque vous avez votre émetteur et votre récepteur dans la même zone, vous allez capter un maximum d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ce genre de choses? On ne se contente pas de mesurer la distance entre la Terre et la Lune. Vous avez là plusieurs exemples d'applications de ce qu'on appelle la télémétrie par temps de vol. Vous allez avoir, par exemple, ici, la détection de vortex, c'est-à-dire que la traînée que va laisser un avion au décollage. Lorsque vous avez un avion plus petit qui va suivre, par exemple, vous avez les aéroports qui sont équipés de systèmes laser qui permettent de vérifier que la traînée de l'avion précédent permet un décollage en toute sécurité. C'est pareil pour l'atterrissage. Ça permet aussi de regarder la direction du vent et ainsi de suite. C'est avec ce genre d'appareil aussi que vous avez, je sais pas, vous avez dû prendre l'avion et vous avez dû entendre l'hôtesse qui prend sa voix la plus douce pour vous annoncer que nous allons entrer dans une zone de turbulence. Bon, c'est avec ce genre d'appareil qu'il le prévoit. Voilà. Et donc, là, vous avez un système de télémètre laser par temps de vol qui est développé par la NASA pour permettre aux navettes spatiales d'aborder les satellites pour des réparations éventuellement. Bon. Donc ça a une portée de 5 km et vous voyez ici une paire de lunettes pour vous donner une idée de la taille de la chose. Et puis ici, une application qui nous concerne tous. Hein. Et non, je ne ferai pas de blague sur le fait qu'il pleut souvent à Nantes. Quoi, personne ne me eut ? Vous n'êtes pas nantais ? Ah bon, ça va, je peux faire des blagues donc sur Nantes. Donc il pleut tout le temps à Nantes, voilà, c'est... Ah, si vous n'êtes pas nantais, je peux y aller franchement. Voilà. En fait, vous voyez ici que la forme et l'altitude des nuages diffèrent donc selon leur nature. Or, vous connaissez l'adage populaire, qu'est-ce qu'on dit quand il va pleuvoir, notamment lorsqu'on parle des nuages. On dit que le plafond est bas. Donc les nuages sont bas. Et en fait, c'est des nuages qui sont plus denses parce que gorgés d'eau. Et avant de crever, donc avant que l'eau ne s'écoule, ils vont tomber en altitude. Et là, vous avez un exemple de mesure effectuée à l'aide de ce genre de système impulsionnel. Vous avez l'altitude qui est mesurée, donc les gens tirent sur des nuages. Les gouttes d'eau en suspension permettent de récupérer suffisamment de photons réfléchis en direction de la Terre. Et à partir de là, vous voyez que ici, entre le 23 novembre et le 26 novembre, vous voyez l'altitude des nuages qui s'est mise à tomber, qui est tombée extrêmement bas à partir d'une altitude, mettons du kilomètre ici. Vous voyez que ce ne sont plus du temps nuageux que la météo va pouvoir nous annoncer, mais vraiment de la pluie, parce que là, ce sont vraiment des nuages qui peuvent générer de la pluie. Et vous voyez que le lendemain, ben, le capteur est devenu totalement aveugle parce qu'il pleut. Donc, il a bien anticipé, il a bien prévu le fait qu'il y allait y avoir de la pluie. Par contre, quand il pleut, ben forcément, il y a tellement d'écho lié aux gouttes d'eau liées à la pluie que là, le capteur est inopérant. On peut faire d'autres choses sympas avec toujours ce même type de dispositif. On peut, par exemple, à partir d'un avion, effectuer un tir en direction, mettons, d'un lac. Vous allez avoir ici une première réflexion, donc vous envoyez une impulsion laser, pardon. Vous allez avoir une partie de l'impulsion laser qui va être réfléchie à l'interface entre l'eau et l'air. Variation de l'indice de réfraction, vous savez, ce fameux bâton qui est cassé quand vous plongez un bâton dans l'eau. Donc vous allez avoir une première réflexion qui est liée ici à la surface entre l'air et l'eau. Puis vous pouvez avoir éventuellement des petites réflexions parce qu'il y a de la poussière, il y a un poisson qui passe, peu importe. Et vous allez avoir ici une deuxième réflexion très importante qui va être liée au sol, donc au fond du lac. Et donc, simplement par la forme de ce signal, vous voyez que vous avez une première impulsion ici qui vous donne, ben, ma foi, le niveau d'eau, donc l'interface entre l'air et l'eau, et ici, le fond du lac. Ben, en mesurant la différence de temps entre les deux pics, vous obtenez quoi ? Ben, la hauteur d'eau. Donc, vous pouvez faire un suivi, typiquement. Comment évolue un lac ? Donc, c'est des suivis extrêmement classiques qui sont faits. On ne le fait pas, par exemple, en pleine mer, parce qu'en pleine mer, on va travailler sur des surfaces beaucoup plus grandes. Donc, ça va être fait non pas par laser, mais par micro-ondes, à partir de satellites. Mais le principe est le même. Vous envoyez une impulsion micro-ondes, vous récupérez une information beaucoup plus volumique. Là, c'est simplement beaucoup plus ponctuel. Puis, vous voyez que, toujours si j'envoie ma fameuse impulsion ici, sur un arbre, je vais peut-être avoir une première réflexion liée au sommet de l'arbre, et puis tout un tas de réflexions liées aux feuilles, et puis une dernière réflexion ici, qui est liée au sol. Résultat, ben, je peux aussi faire un suivi de forêt, non seulement en ayant une première réflexion, la première impulsion pardon, ici, qui va me donner la hauteur de l'arbre, la dernière va me donner ici donc, le niveau de sol, donc en calculant le temps entre cette impulsion-là et celle-là, j'ai une bonne idée de la hauteur de mon arbre. Mais vous voyez en plus qu'en fonction des échos, si on cartographie de manière suffisamment fine, donc en général c'est embarqué sur un avion et on fait un scan à l'aide de miroirs pour balayer le faisceau laser, ben, vous voyez qu'on est capable de distinguer la forme des arbres et de les classifier. Ça veut dire qu'à partir d'un avion, on peut tout à fait suivre l'évolution d'une forêt et savoir non seulement si les arbres ont grandi, mais quelle espèce a grandi, quelle espèce a poussé, quelle espèce est en train de disparaître, et ainsi de suite. Donc il y a tout ce genre de choses qui est actuellement utilisé. Et vous avez peut-être entendu parler, bon, bien sûr, de la vision X de Superboy et de Superboy, mais dans l'actualité, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si cet écho vous est arrivé, on a parlé quand même d'une découverte assez importante de monuments, d'un millier de bâtiments en Amérique du Sud, ou centrale, je ne sais plus exactement, détectés à base de LIDAR. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette information-là. Bon, le LIDAR, ce n'est jamais que l'un des noms du télémètre laser impulsionnel, c'est-à-dire le coup de canon laser classique. Ben, qu'est-ce que les gens ont fait ? En fait, à partir d'un avion, ils ont survolé une zone, et puis, ben, ils ont cartographié. Donc, ils ont eu des échos avec les sommets des arbres, avec éventuellement le sol, les bâtiments, et ainsi de suite. Mais puisque je suis capable d'identifier la nature des arbres, leur hauteur, et ainsi de suite, ben, je suis capable de dire, ben, puisque ça, c'est des arbres, je vais filtrer tout ce signal-là, l'enlever, et qu'est-ce qui va me rester ? Ben, il va me rester, une fois que j'ai enlevé tous les signaux qui sont identifiés comme venant des arbres, ben, uniquement les signaux qui viennent du sol. Et donc, je peux ensuite reconstituer ici, typiquement, cartographier ben, un village, alors là, c'est un village mexicain, tel qu'il apparaîtrait s'il n'y avait pas la forêt qui l'avait envahi. Et donc, voir combien il y a de monuments, et ainsi de suite. Donc ça a été fait il y a déjà quelques années. Et puis on a des images qui ont été publiées, en fait, mais c'est exactement la même chose. Donc vous voyez, surveillance laser d'une cité maya. Ça a été fait juste avant les vacances d'été. Je pense qu'on a surtout communiqué vers le mois de septembre par rapport à cette découverte-là. Et les gens, survolant cette zone-là, en enlevant tous les arbres qui, ma foi, étaient détectés comme tels, ont réussi à reconstituer tout un village maya avec plus d'un millier de bâtiments. Voilà, à partir d'un avion. Pourtant, tout était caché en apparence. Ce qui veut dire qu'il y a aussi des applications militaires, on ne va pas se le cacher. Imaginez que dans une forêt, vous avez quelqu'un qui a un tank, par exemple, l'écho ne sera pas le même qu'une feuille ou que le sol. Ça va se cartographier. Donc il y a aussi des gens qui ont développé ce genre de système pour détecter éventuellement s'il y a des armées ennemies qui se cachent dans des forêts, et ainsi de suite. Bon. C'est un moyen de voir, quelque part, alors pas à travers les murs, puisqu'un laser ne peut pas traverser un mur, du moins pas un laser traditionnel. Par contre, quand il y a des feuillages, quand ce n'est pas complètement opaque, on peut identifier les différents échos, leur nature, et à partir de là, trouver de l'information qui peut être cachée. Alors, si on parlait un petit peu de la vie quotidienne, avant de s'attaquer vraiment à la science-fiction, et je vais essayer de vous laisser du temps aussi pour vous exprimer, si je parle trop, vous me le dites. Bon, pour les plus anciens parmi vous, vous avez vu des lecteurs de CD, DVD et Blu-ray. Bien sûr, les jeunes ne comprendront absolument rien à ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Si, bon, vous me rassurez. Je me rappellerai toujours... Mais c'était il y a plus de 20 ans, j'avais fait une démonstration devant des élèves de 4e ou un truc comme ça, et je leur montre un disque vinyle, et là, il y a un gamin qui dit à un autre « Ah, ce sont les vieux disques de mes parents. » J'ai pris un coup de vieux. Bon. Donc là, ce sont les CD, DVD bourrés. Ça va, je ne suis pas encore totalement dépassé, vous savez ce que c'est. Ben, si on prend typiquement un CD, ben, le faisceau laser, il va lire quoi ? Il va lire des creux et des bosses. Voilà. Ces creux et ces bosses, ici, vous avez une marche qui correspond très exactement au quart de la longueur d'onde de lecture. C'est-à-dire que si vous lisez un Blu-ray, c'est de la longueur d'onde bleue. Si vous lisez un DVD, c'est du rouge. Un CD, c'est du rouge. Et un DVD, c'est de l'infrarouge. Et donc, vous allez avoir ici exactement une différence de lambda sur 4, donc le quart de la longueur d'onde, qui fait que lorsque votre faisceau va en partie, c'est un spot, hein, quand votre spot va taper ici en partie sur la bosse et en partie sur le creux, mais vous allez avoir ici un aller-retour qui va correspondre à une demi-longueur d'onde et qui va venir, en fait, interférer de manière négative avec l'autre partie du faisceau. Résultat, qu'est-ce qui se passe ? Quand tout le faisceau est sur une bosse, ben, vous éclairez, et par réflexion sur votre récepteur, vous voyez de la lumière. Quand vous êtes sur un creux, ben, c'est exactement la même chose. Quand vous êtes sur une transition ici, vous avez une partie du faisceau qui interfère négativement avec l'autre partie et ça coupe la lumière. À partir de là, il n'y a plus de réflexion et quand le photodiode est aveugle, Bell détecte qu'il y a un passage ici, entre une bosse et un creux, ou bien entre, ici, le creux et la bosse. Donc en fait, tout ce que l'on fait lorsque on lit un CD, un DVD ou un Blu-ray, c'est simplement détecter ces transitions, coder ensuite en numérique par un 1, tout le reste étant des zéros. Quand il y a trop de zéros, le cerveau mécanisme déraille, donc on est limité, je crois que c'est une dizaine de zéros maximum, quelque chose comme ça. Sinon, le cerveau mécanisme n'arrive plus à lire la piste, qui est quand même très petite. Et puis, ben, connaissant la vitesse angulaire donc, de notre disque, on est capable ben, de savoir exactement où on se trouve et donc de relire des informations qui sont codées de manière numérique, simplement par les creux et les bosses. Bon, ça, à la limite, c'est connu. En général, les gens se rendent un petit peu moins compte que oui, il y a un laser dans une imprimante laser. Aussi curieux que ça puisse paraître, oui. Ben oui, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Vous avez un laser, si j'appuie pas sur le bon bouton, je vais tout casser. Vous avez un laser qui va venir frapper, ici, des particules qui sont chargées négativement. Vous voyez, c'est ce que j'aurais représenté par des petits ronds avec des signes moins. Et chaque fois que le laser vient frapper une particule, ici, représentée par un signe moins, un ion négatif, ben, cette particule va se charger positivement, sous l'effet du laser, sous l'effet de sa chaleur. Et donc, on va venir créer tout un tas de particules positives autour du tambour. Et puis le tonnerre, ici, va venir déposer l'encre, et l'encre ne va se coller qu'aux particules chargées positivement. Donc en fait, avec notre petit laser et un petit miroir, on est en train d'écrire tous les dessins, tous les caractères, et ainsi de suite. Une fois qu'on a fait ça, la feuille, on va l'envoyer ici dans un cylindre chauffant, on va cuire l'encre sur la feuille, et ça va sortir. Et vous avez votre impression. Donc, ça, c'est le schéma, je dirais, très basique. Après, vous voyez qu'en réalité, vous voyez une forme de miroir qui a été proposée, le rouleau de développement, etc., c'est un peu plus compliqué. Et surtout, vous voyez qu'il y a un fil de charge ici. À savoir que quand vous avez déposé l'encre, votre tambour continue à tourner. Et là, vous allez avoir une décharge électrostatique qui va faire que tous vos ions vont repasser négatifs. Donc ici, vous rechargez négativement tous vos ions. Et c'est seulement quand le laser, au tour suivant, vient refrapper une partie du tambour que les ions, un par un, vont être rechargés positivement et ainsi de suite. Donc vous pouvez répéter l'opération à l'infini. Puisqu'à chaque tour, vous avez cette partie-là où certaines particules sont chargées positivement, l'encre s'y colle, et puis quand le tambour arrive ici, vous rayonisez négativement tous les ions, vous rechargez négativement tous les ions, et ce n'est que lorsqu'il arrive devant le faisceau laser que l'ion va rester négatif ou devenir positif. Et donc à chaque tour, ça change. Après, il y a plein d'autres applications. Dans la vraie vie, vous avez ici une fusion de données entre caméra et des télémètres laser qui permettent de détecter. Alors ça, c'est un système qui est basé sur un pont aux États-Unis. Ça permet de détecter de jour comme de nuit, même à fois la présence de piétons, de véhicules et ainsi de suite, et de faire du contrôle. Enfin, pas du contrôle, c'est pour la sécurité en fait des gens. Alors, l'intérêt, c'est que, en particulier, parfois la caméra de nuit est éblouie, ne voit pas certains petits obstacles comme des piétons, alors que le télémètre laser, lui, va les détecter facilement. Par contre, quand il pleut, c'est plutôt la caméra qui va être plus performante que le laser. Donc, c'est un système complémentaire qui va donner des informations, je dirais, de manière assez fiable, parce que c'est deux systèmes qui ne présentent pas les mêmes avantages ni inconvénients. Là, vous avez du contrôle qualité effectué c'est chez Michelin, ce n'est pas un secret, c'est une photo du domaine public. Donc, la profondeur de gravure est détectée par laser. Ici, vous avez des tuyaux dont le diamètre fait plus de 3 mètres. Il s'agit de contrôler, alors c'est des tuyaux qui entrent dans la composition de centrales nucléaires, et il s'agit de contrôler la circularité des tuyaux avec une précision de l'ordre de plus ou moins 5 mm. Donc vous avez des télémètres laser qui sont placés à une dizaine de mètres de chaque côté et qui viennent balayer chacun ici et ici la surface du cylindre. On recalcule la circularité. Si c'est bon, le cylindre peut sortir. Si c'est pas bon, en fait, on le réenfourne. Il sort du four, il est encore chaud. Il y a une presse hydraulique à l'intérieur. On le remet au format, on le ressort, on mesure et ainsi de suite. C'est comme une grosse pizza, quoi. Très grosse pizza. Oui, puis bon, là, vous avez un système aussi de contrôle qualité de wafer électronique, donc en microélectronique, c'est exactement la même chose que typiquement cette application-là, si ce n'est que les dimensions sont plus petites, et que là, on va chercher le millimètre, là, on va chercher plutôt le micron en précision, voire parfois même mieux que le micron. Une dernière application, j'espère pour vous, pas de la vie quotidienne, la chirurgie de l'œil. Donc, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est myope, ce qui est mon cas? C'est tout simplement que la courbure de son œil est trop marquée. Donc, pour corriger la myopie, il faut aplanir. En fait, ici, il faut aplanir cette partie-là de l'œil, donc aplanir la cornée. Donc, il y a plusieurs techniques. J'en ai choisi une parce que là, les images sont parlantes. Ce n'est pas forcément la meilleure aujourd'hui. Mais bon, elle a quand même été massivement utilisée. Donc vous enlevez le haut de l'œil, vous décapotez, vous ouvrez le capot de la voiture, tout simplement. Et puis vous allez vaporiser à l'aide d'impulsions laser, alors très très courtes, femtosecondes, c'est vraiment très court, dans l'ultraviolet. Vous allez vaporiser de sorte à ce que la matière, soit vaporisée, donc ça n'aille. Vous allez donc ici sculpter la cornée, et à partir de là, l'aplanir. Et quand elle est assez plate, c'est-à-dire que finalement, quand une cornée, tout simplement, on le voit ici, typiquement, quand la cornée est trop courbée, vous allez focaliser à l'avant, ici, du plan de la rétine, donc vous êtes myope. Et donc l'idée, c'est d'aplanir ça, de sorte que le point focal soit sur la rétine, et là, vous n'êtes plus myope. Bon, c'est une des techniques utilisées. Et ce qui est important ici, c'est qu'on utilise les ultraviolets. Pourquoi les ultraviolets ? Parce que quand on regarde la manière dont notre œil réagit, vous voyez que les caractéristiques de transmission de la lumière dans l'œil humain sont assez particulières. À partir de 400 nanomètres, l'œil coupe tous les faisceaux. C'est-à-dire que vraiment, l'œil ne voit pas l'ultraviolet, il coupe complètement l'ultraviolet. L'œil voit le visible, heureusement, sinon on serait mal. Donc, de 400 jusqu'à 800, on voit. Là où c'est beaucoup plus problématique, c'est qu'on ne voit plus la couleur de 800 nanomètres ici jusqu'à 1500, mais notre œil continue à focaliser la lumière. Ce qui veut dire que lorsqu'on utilise un laser infrarouge, c'est un laser qui n'est plus visible, qui a une longueur d'onde supérieure au rouge, donc dans cette zone-là, mais on ne le voit pas. Mais l'œil, lui, continue à focaliser toute l'énergie. Et là, ça devient extrêmement dangereux. Ça devient extrêmement dangereux parce que quand vous prenez un coup de laser, si je vous mets un petit coup de pointeur laser dans l'œil, vous allez avoir une lumière brillante qui va vous arriver dans l'œil, vous allez avoir le réflexe de tourner la tête et surtout de fermer la paupière, ce qu'on appelle le réflexe palpébral. Malheureusement ici, dans la lumière infrarouge, vous ne voyez pas le faisceau laser, donc vous n'avez pas ce réflexe. À partir de là, ce genre de laser-là présente un danger pour l'œil. Donc il y a des conditions qu'on appelle de sécurité oculaire, des classifications, qui font que on est limité soit en puissance optique émise, sinon il pourrait y avoir des risques de glaucome, brûlure de la rétine, et ça c'est irrémédiable. De la même façon, donc on limite la puissance, ou alors, lorsque on a besoin d'une puissance trop importante et qu'on utilise une longueur d'onde, par exemple dans l'infrarouge, on va capoter le système, de sorte qu'à chaque fois que quelqu'un va ouvrir le capot, eh bien, le système laser va être coupé de manière automatique. Bonjour. Je fais ça à mes élèves quand ils arrivent en retard, donc je ne peux pas m'en empêcher, pardon. Vieux réflexe de prof, voilà. Bon. Donc, il y a quand même des conditions draconiennes de sécurité. Port de lunettes, par exemple, qui empêchent les rayonnements infrarouges de venir vous brûler la rétine. Limitation en termes de puissance, et ainsi de suite. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, après, vous avez quand même, bon, malheureusement, des pseudo-supporters, ce que moi je vais appeler des imbéciles, qui, lors de matchs de foot ou de rugby, vont chercher avec un pointeur laser à aveugler celui qui va tirer la pénalité, le pénalty, le coup franc, et ainsi de suite. Bon, fort heureusement, à part une gêne qui sera une gêne de type éblouissement, il se trouve que la puissance d'un faisceau laser est inversement proportionnelle au carré de la distance. Donc c'est une loi en 1 sur des 2. Donc à partir de là, la personne qui se trouve en tribune et qui cherche à tirer dans l'œil du joueur, la distance est telle qu'à part une gêne du style oh, « c'est comme si vous preniez, je ne sais pas moi, un petit éclat de soleil réfléchi par un morceau de verre », il n'y a pas d'autres conséquences, heureusement. Après, il y a eu des applications moins sympathiques pendant la guerre du Kosovo, où les Kosovars, notamment, tiraient à coups de canon laser en direction des avions qui venaient les bombarder pour rendre aveugles les pilotes. Bon, ça, c'est malheureusement ce qui peut se passer pendant les guerres. Et donc, puisque je parle de risque pour l'œil, le laser, ça peut aussi servir à protéger les aveugles d'une certaine manière. Vous avez ici un système qui est développé d'ailleurs en France, Cocorico. Normalement, vous voyez, votre aveugle, il a sa canne blanche, mais sa canne blanche, elle lui indique juste les obstacles au niveau du sol. Éventuellement, à une vingtaine de centimètres, un trottoir, etc. Seulement, toute cette partie-là, la partie du haut du corps, n'est en aucun cas protégée. S'il y a un panneau, s'il y a une branche, s'il y a une fenêtre ouverte, il n'est pas protégé. Donc, il y a un système laser qui a été mis au point, qui s'installe sur les cannes blanches, et qui vient ici balayer l'espace devant la personne malvoyante, et la prévenir en cas de présence d'obstacles. Donc c'est un peu comme le système quand vous garez votre voiture. Hein, vous allez avoir une fréquence avec un bip qui va augmenter au fur et à mesure que vous vous rapprochez de l'obstacle. Et puis quand vous êtes proche de l'obstacle, vous avez en plus des petites vibrations qui sont transmises à travers la canne. Ce qui permet de dire à la personne, là, il faut vraiment s'arrêter, l'obstacle arrive. Alors, c'est une belle réussite. C'est très facile à prendre en main pour les aveugles de naissance et les jeunes aveugles. Par contre, ceux qui sont habitués à la canne blanche ou ceux qui sont devenus aveugles par accident ont quand même des difficultés, passé un certain âge, à prendre ça en main parce que ça fait beaucoup d'informations à gérer par le cerveau. Ça, c'est une notion aussi qui est l'acceptabilité des technologies. Vous avez un certain nombre d'aveugles de longue date qui préfèrent la canne blanche en disant « tant pis, ça, j'arrive à le gérer, le système en plus, mon cerveau n'accepte pas ». Ça arrive. Bon, vous allez vous dire, mais il nous a menti, il nous parle de science-fiction, puis il nous parle de tout sauf de science-fiction. Donc il va nous en parler, la science-fiction. Mais oui, nous sommes sur un festival de science-fiction, donc on va pouvoir parler de SF. D'abord, je suis fan de SF, donc c'est pas moi qui vais empêcher ça. Donc vous voyez ici, y a-t-il des journalistes dans la pièce ? Y a-t-il des journalistes de TF1 ? Bien, je peux donc dire du mal de TF1. Non, j'avais dit Canal+, c'est Canal+, le sponsor ? Oui, c'est Canal, le sponsor du festival. Donc, vous voyez ici une petite fille qui regarde une émission de TF1. Je vais quand même dire du mal de TF1, tant pis. Voilà, donc totalement décérébrée et qui est captivée par l'écran. Bon, en réalité, c'est tiré du film Poltergeist, si je me souviens bien. Et donc, il y a un méchant fantôme qui vient prendre possession du cerveau de la petite fille. Qui est un thème qui relève essentiellement du fantastique. Mais qui a aussi été traité en science-fiction, y compris dans les années 40 et 50. Là, j'ai pris la photo d'un vieux bouquin du Fleuve Noir Anticipation, où des extraterrestres arrivaient sur Terre et prenaient possession des pensées des gens pour dominer la planète. Et puis, bon, ben, pour a priori, je ne sais pas s'ils nous mangeaient, je ne me rappelle plus exactement, mais enfin, ils nous faisaient des trucs pas sympas. Puis vous avez un film, est-ce que vous avez vu ce film Blue Sunshine ? Qui a vu ce chef-d'œuvre ? Énorme succès en salle, au moins 127 entrées. Allez, mettons 125. Bon, mais le gars, il a écrit ça, je ne sais pas ce qu'il avait pris ce jour-là, on va être honnête. N'empêche que c'était terriblement prémonitoire. Mais il ne savait pas qu'il avait raison quand il a écrit. Donc c'est un vieux film, hein, c'est un film des années 80, je ne sais plus exactement la date, hein, je ne l'ai plus en tête. En gros, il imagine que donc quelqu'un prend une drogue et puis soumis à un rayon bleu, ben on prend possession de son cerveau et il va tuer les gens. Bon. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'optogénétique. Pas pour tuer les gens, je vous rassure tout de suite. C'est pas le but. Par contre, on est en capacité de modifier génétiquement les cellules du cerveau. Alors, ça fait peur. Hein. Dit comme ça, ça fiche vraiment la trouille. En gros, qu'est-ce qu'on fait ? On rend les neurones du cerveau sensibles à la lumière. Alors, il suffit d'injecter en fait les gènes d'une algue unicellulaire. Alors, ça peut être une algue, ça peut être autre chose, mais c'est souvent une algue unicellulaire qui présente ces propriétés-là. Et ce gène, de l'algue, c'est a une propriété de protéine canale, c'est-à-dire que si on envoie de la lumière bleue, ben on va rendre le neurone actif. Si on envoie de la lumière jaune, on rend le neurone inactif. En gros, c'est comme un passage à niveau, ouvert fermé. Et donc, ça va modifier la polarité des cellules et désactiver ou activer les neurones à volonté. Donc, une expérience a été menée ici avec un petit rat qui va très bien depuis, hein, je vous rassure. On est copains, hein, donc. Non, en fait, j'en sais rien. Hein, c'est pas moi qui fais la manip. Et bon, donc, le rat se déplace dans une pièce avec une pièce où il n'y a aucun marquage au sol. Il n'y a rien. C'est une pièce nue. Par contre, les chercheurs ont décidé, de manière virtuelle, qu'une partie de la pièce, c'était la chambre du plaisir. Il y a une zone virtuelle. Chaque fois que le rat rentre dans cette zone-là, ils envoient dans la partie qui active la zone de plaisir du cerveau du rat, ils activent les neurones. Donc le rat, il est très content d'être... Chaque fois qu'il passe là, paf, il est content. Un rat heureux. Voilà. Et donc, il envoie des impulsions en lumière bleue, hein, pour activer la zone du plaisir du cerveau. Et après, ils arrêtent. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? C'est que le rat, naturellement, il aura tendance à retourner dans cette zone en se disant, bon, ben là, j'étais bien. Il se rappelle qu'il était bien. Voilà. Alors, là, j'ai eu une question il y a 15 jours, 3 semaines, où quelqu'un me disait, mais ça veut dire qu'on implante de faux souvenirs dans les rats ? Non, on n'est absolument pas capable d'implanter, de faire de la télépathie. Les interfaces neurales directes permettent à peine de détecter de l'énergie, enfin de l'activité électrique, pas de détecter des pensées. On en est très très loin. Pour l'instant, on est incapable même d'envisager comment on pourrait y arriver. Donc, on n'est pas en train d'inoculer de faux souvenirs à ce pauvre rat. On lui a juste inoculé des réflexes de Pavlov. Il se rappelle qu'il était bien à tel endroit, ça ne va pas plus loin. Après, il vit sa vie de rat. Et donc, là, ça a été étudié pour cette expérience en particulier. C'était pour étudier le comportement des gens souffrant de dépendance à la drogue. C'est donc, et c'est vrai, c'est au niveau des Pays-Bas que cette étude a été menée. Je vous laisse conclure la corrélation. Par contre, vous allez vous dire, mais bon, il parle d'un peu tout et n'importe quoi. Il nous parle des aveugles, là maintenant, il nous parle des drogués. Oui, mais imaginez que vous avez un nerf optique qui est abîmé et que vous puissiez réactiver certaines cellules de ce nerf optique. ça serait peut-être pas mal, effectivement, par ce type de méthode de modification génétique avec à l'aide d'une algue unicellulaire, de rendre actif, par exemple, le nerf optique de sorte à ce que la personne soit en capacité de voir, ou de revoir un petit peu. Alors, ce n'est pas la technique la plus performante au jour d'aujourd'hui. C'est une technique qui est balbutiante. Il y a quand même déjà une boîte qui s'est créée aux États-Unis là-dessus. Ça donne les premiers résultats. Alors, on ne va pas se mentir. Ça ne permet pas aux gens de voir normalement. Mais déjà, ça permet aux gens de distinguer des choses, d'éviter les obstacles et tout. Quand vous êtes totalement aveugle, ça vous change déjà la vie. Voilà. Donc, l'optogénétique, sous ce terme absolument barbare, avec la modification génétique des cellules de cerveau, ce qui peut faire très peur, en fait, il faut une piqûre avec une algue. Ça s'arrête là. Vous avez sur un certain nombre de contrôles qualité de l'eau, vous avez aussi des alevins qui sont modifiés génétiquement à l'aide d'une algue. Et ces alevins sont, plus les alevins sont lumineux, plus l'eau contient des produits chimiques et donc l'eau est impropre à la consommation. Vous avez pas mal de contrôles de qualité de l'eau qui se font à Bruxelles, à Pau et ainsi de suite. C'est déjà à l'aide de techniques de ce genre-là. Voilà. A priori, les alevins vivent très bien leur vie d'alevin malgré cette algue. Enfin, ils le vivent aussi bien que lorsque moi je mange du brocoli, quoi. Sauf que je ne deviens pas lumineux. Bon, la plupart du temps, vous venez, bande de sanguinaires, exclusivement pour savoir si on peut tuer des gens avec des lasers. Donc, les retardataires ont bien fait de venir en retard, puisque le seul point d'intérêt, c'est maintenant. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut tuer les gens avec des lasers? La réponse est oui, bien évidemment, avec plaisir. Donc, c'est le rayon de la mort. Et vous voyez, rien que le dessin du milieu laisse présager que ce rayon de la mort, au niveau de l'imagerie et la science-fiction, ça date pas d'hier. Vous avez les aventures de Buck Rogers, vous avez ici une aventure du Capitaine Flamme, ou Capitaine Futur, comme vous voulez, bon, tout ça. Bon, ça veut dire que depuis toujours, le rayon de la mort, dans l'imagerie de la science-fiction, existe. Et c'est même comme ça que le laser a été popularisé. Puis c'est allé jusqu'à Chris Foss avec tout un tas de canons laser, c'est juste esthétiquement plus joli. Hop, on repart. Et puis, au cinéma, c'est pareil, il n'y a pas que dans les pulps et ainsi de suite. Vous avez j'espère que vous avez vu ce film, Docteur Mabuse et le rayon de la mort, rien qu'au titre, ça vous donne envie de le voir. Si vous ne l'avez pas vu, continuez. Vous avez ce téléfilm américain où une soucoupe volante attaque une prairie sauvage, on ne sait pas trop pourquoi, non plus sans doute. Et ce chef-d'œuvre absolu, alors celui-là, j'espère que vous l'avez vu, Rayon Laser. J'espère que vous avez vu ce film parce qu'il est quand même absolument extraordinaire. Je peux vous raconter le pitch en 2 minutes. C'est un gars qui est dans le désert, qui tombe sur un canon laser extraterrestre qui se greffe à son bras, ce qui le rend fou, ce qui fait qu'il tue tout le monde. Et après, il est tué. Voilà, vous venez de gagner 1h30 de votre vie. Sachant que le film a bénéficié d'effets spéciaux extrêmement importants. Ils avaient au moins 15 euros d'effets spéciaux. Donc voilà. Puis c'était la cousine, la tante et la concierge du réalisateur qui jouait. Voilà, un chef-d'œuvre. Bon, après, il y a des choses plus sérieuses quand même et beaucoup plus sympas. Battlestar Galactica, toutes les séries télé que l'on peut voir avec l'imagerie du laser. Et je ne vous ferai pas l'injure de sauter Star Wars. Bon, mais dans la réalité, qu'est-ce qu'il y a vraiment? Il n'y a pas grand-chose en réalité. Pour l'instant, en dehors de ce canon laser installé en 2014, en août 2014 précisément, sur le bateau USS Ponce, je n'ai pas connaissance même qu'il y a un deuxième canon laser qui a été installé par la Navy américaine. Après, bon, ils m'ont pas forcément écrit pour me le dire. A priori, ils n'ont pas communiqué là-dessus. Alors, il y a peut-être une raison, c'est que chaque canon coûte 32 millions d'euros. Alors après, une fois que vous avez installé votre canon, il ne faut plus vous gêner. Chaque tir ne coûte que 1 euro. Donc, il faut y aller. Bon, plus sérieusement, un tir, c'est quelques dizaines de kilowatts pendant 1 minute. Et ça va permettre de, non pas de détruire, mais de rendre inopérant, ou d'aveugler, d'intercepter, des petites cibles, en particulier des drones, des avions en approche, des bateaux, sans détruire forcément le bateau, le drone, et ainsi de suite. Juste, par exemple, son moteur, de sorte à le forcer à se poser, récupérer ensuite l'équipage, le système, et après leur poser des questions de manière gentille et posée. Voilà. Bon, après, il faut quand même aussi savoir qu'à 32 millions d'euros, s'il y a du brouillard, ça ne marche pas. Ah, 32 millions d'euros, quand même, ça fait un petit peu mal. Voilà. Donc, ça marche jusqu'à à peu près quelques kilomètres. J'ai plus en tête exactement la portée maximale. Je crois qu'ils annoncent 7 kilomètres, quelque chose comme ça. Ce qui est déjà très bien. Bon, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose en réalité. Et ce n'est pas moi qui m'en plaindrai. Il y a effectivement un projet, on ne sait pas si ça aboutira ou pas, d'embarquer des lasers sur des avions pour détruire des défenses au sol. Alors, j'ai mentionné, pas parce que le projet existe et puis qu'il n'existe pas, c'est vraiment un projet futuriste. Par contre, ce qui m'intéressait, c'était de vous donner une idée du rapport puissance-poids-encombrement. C'est-à-dire que là, vous avez, pour détruire une cible au sol, vous devez embarquer quand même un laser qui fait 750 kg, 3 mètres cubes, et qui va envoyer 150 kW de puissance optique. Bon. Donc ça, c'est pour que vous ayez ces chiffres en tête, parce que maintenant, nous allons aborder quand même quelque chose, peut-être pas sur ce transparent, mais sur le suivant, voilà. Donc pas tout de suite, mais gardez ces chiffres en tête, et nous en reparlerons dans deux transparents. Bon, ça, c'est le rayon de la mort, mais pour rire. Vous avez déjà joué au Laser Game, Laser Quest, ou je sais pas comment ça s'appelle, ce truc de Jens, là. Ça s'appelle comment ? Ouais, voilà, enfin, il y a plein de laser bidule, machin, voilà. Donc, en général, vous êtes dans une atmosphère un peu obscure, un petit peu enfumée, un petit peu ensemencée. C'est rarement en pleine lumière, hein, ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que, vous voyez l'exemple par la pratique, si j'envoie un faisceau laser en direction ici de l'écran, qu'est-ce que vous voyez ? Ben, vous ne voyez pas le faisceau laser. Vous voyez le point. Donc vous voyez simplement la réflexion du faisceau laser en direction de votre œil. C'est-à-dire que si on voulait voir le faisceau laser émis par ce petit appareil, ben, il faudrait que j'ensemence avec un petit peu de poussière de craie, par exemple, de la poussière. Et là, ça permettrait de voir le faisceau. Parce qu'en fait, ce qu'on peut voir, c'est simplement la réflexion de la lumière sur un corps solide. Enfin, solide ou liquide, peu importe, mais sur un corps. Donc, comme ici, il n'y a pas assez de poussière, la salle est propre, c'est bien, on ne voit pas le faisceau laser. Voilà. Donc là, en général, on ensemence, donc on met des poussières en suspension, un petit peu de fumée, ça fait très bien l'affaire. Ça permet de voir un petit peu le faisceau laser, sachant que comme il est de faible puissance, si on montait la puissance, à la limite, on pourrait voir un petit peu mieux, mais il est de faible puissance, on n'est pas censé découper les gens, a priori, on est censé juste les toucher. Et donc, à partir de là, bon, la puissance étant faible, il y a à peu près comme ça, il n'y a aucune possibilité de voir vraiment le faisceau. Dans des conditions normales. Et puis vous avez ces espèces de baudriers, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais peu importe. Donc avec ici des diodes électroluminescentes pour vous donner la couleur de l'équipe. Vous êtes les bleus, les rouges, je ne sais pas ce que vous êtes, peu importe. Et puis des récepteurs infrarouges à différentes zones. Et quand le faisceau laser vient toucher ces zones-là, ben, ça veut dire que la puissance laser vous a touché, donc vous êtes blessé. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, le mode de fonctionnement. Donc vous avez des diodes multicolores pour dire à quelle équipe vous jouez et des récepteurs qui captent le faisceau laser envoyé par le pistolet. Bon, là, on est dans le domaine du jeu, donc il n'y a pas de mal. Et là, par contre, on va commencer à pouvoir enfin dire du mal. Donc, voilà, sur cette photo, vous avez, je dirais, la conjugaison de tout un tas d'âneries qui est assez impressionnante. À savoir que déjà, vous avez ici le fameux sabre laser de Star Wars. Hein. Vous avez donc un faisceau lumineux qui s'arrête brutalement. On ne sait pas pourquoi. Bon. Moi, je suis un chevalier Jedi, je sors mon épée laser, j'allume mon épée laser, je suis dans un vaisseau, je vais battre les méchants. Ben, mon épée laser, elle va aller jusqu'au plafond du vaisseau spatial, va faire un trou dans le vaisseau spatial, et puis l'atmosphère, elle va partir, puis on va tous mourir. Ce n'était pas la peine de faire autant de films. Ça ne marche pas. Donc déjà, un rayon lumineux qui s'arrête brutalement, au jour d'aujourd'hui, c'est une aberration. Alors, vous allez me dire, oui, il y a des travaux du MIT qui visent à rendre la lumière solide. Oui, alors c'est dans des conditions très particulières et ça marchera peut-être dans 25 ans, si ça marche. On en est très très loin aujourd'hui. Donc déjà, première aberration, la lumière qui s'arrête brutalement sans obstacle, ça, c'est pas possible. Deuxièmement, vous voyez que on voit le faisceau lumineux. Je viens de vous montrer que, en fait, on ne peut pas le voir. Sauf à ensemencer, etc. Ou alors, ils ne se battent que dans des endroits très sales. Il va falloir demander qu'à un producteur de nettoyer un petit peu avant. Ce n'est pas possible. Bon. Ensuite, il y a un truc de vrai quand même. Oui, les lasers peuvent avoir des couleurs différentes. Ça marche. C'est vrai. Ensuite, lorsque vous avez, vous promenez dans les bois la nuit avec une lampe torche. Pas vous chercher des champignons, je me moque de ce que vous faites, c'est pas grave. Vous avez remarqué déjà quand vous bougez la lampe torche, ce petit bruit, bzz, bzz, bzz. Vous l'avez remarqué ce petit bruit ? Il y en a qui m'ont dit oui quand même. Là, je leur ai dit allez consulter. Bon, une fois, mais j'avais vraiment quelqu'un dans le public qui disait « Ah oui, oui, oui ». Et là, j'ai dit « Non, mais bon, c'est le syndrome de la blouse blanche. Je peux raconter n'importe quoi, les gens m'ont... » Non, ça ne marche pas. Bon, donc, bien sûr que la lumière ne fait pas de bruit en bougeant. Bien sûr. De la même façon, aussi, quand vous avez deux faisceaux de lampes torches qui se croisent, vous sentez cette résistance. Voilà. Merci. Ah, j'ai donc un public sain et normalement constitué. Ça me rassure. Voilà. Bon, donc tout ça, ça ne marche pas. Voilà. Alors, c'est pas mignon de se moquer de Star Wars. Hein. Bon, mais d'abord, ils n'avaient qu'à pas l'appeler comme ça. Mais il faut quand même être minimum honnête. Ils ne l'ont pas appelé comme ça. Il n'y a que la version française qui a décidé d'appeler ça un sabre laser. Dans la version originale, c'est un lightsaber, un sabre lumineux. Et déjà, c'est beaucoup moins bête qu'un sabre laser. Il y en a une autre de perles que je vous montrerai tout à l'heure. Le traducteur avait un vrai problème avec les lasers. Il en mettait partout. Sans rien comprendre, mais il en mettait partout. Donc, c'est un sabre lumineux. Ouais, déjà, un sabre lumineux, quelque part, on peut se dire que ça peut être un peu moins farfelu. Donc, comme c'est pas joli de se moquer, faut trouver aussi une solution pour expliquer si c'est pas un sabre laser, c'est quoi. Donc, je me suis inspiré de quelqu'un qui n'est absolument pas connu ici, qui s'appelle Roland Lehoucq. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom-là. Là, je suis censé faire une génuflexion, mais ma souplesse naturelle ne me permet pas de le faire. Qui a proposé, lors d'une de ses conférences sur la physique, expliquer la physique via Star Wars, un succédané, un remplaçant au sabre laser qui s'appelle tout simplement la torche plasma. Et donc, le plasma, c'est quoi? Imaginez, c'est le quatrième état de la matière. Imaginez, vous avez de l'eau à très très basse température. Elle est sous quelle forme? C'est le glaçon de l'apéro, on est d'accord. Puis vous montez un petit peu en température et donc l'eau devient liquide, jusque-là tout va bien. Vous montez encore en température, c'est de la vapeur, c'est ce qui va cuire les fameux brocolis de tout à l'heure. Et vous montez encore en température, ça devient du plasma. Donc le plasma est un état de la matière extrêmement chaud, on voit jusqu'à 15 000 Kelvin. Et l'exemple le plus connu de par chez nous du plasma s'appelle le Soleil, heureusement qu'il est là, sinon on serait un petit peu mal pour la vie sur Terre. Voilà. Et donc l'idée, c'est que si vous insufflez même simplement de l'air, un gaz normalement, mais même de l'air ça suffit, dans un arc électrique, donc vous avez ici une électrode amont, une électrode aval, vous créez un arc électrique dans un champ très confiné, vous injectez de l'air. Qu'est-ce qui va se passer? À l'intérieur de la torche, il va en ressortir du plasma. Vous allez chauffer localement cet air et qui va se transformer en plasma. Et quand vous voyez la forme ici de la torche plasma, vous voyez qu'effectivement, elle finit bien par s'arrêter au bout d'un petit moment. Donc, allez, on n'est pas au sabre laser. On est au canif laser. Mais c'est déjà pas si mal. Et puis là, on est vraiment en capacité de venir découper quelque chose avec une torche plasma. Il y a quand même suffisamment de puissance pour faire de la découpe. Je ne sais plus dans quel film c'était, où vous avez le Jedi qui découpe une chambre forte qui doit bien faire 3 ou 4 mètres. Elle a l'air quand même super épaisse, et puis en bon acier, quoi. Alors, si on revient à un transparent que je vous ai présenté tout à l'heure, voilà, pour commencer à vraiment à découper, à détruire, 150 kW, 750 kg, 3 mètres cubes. Alors, je veux bien que la force soit avec vous. Mais là, quand même, c'est plus que la musculation qu'il faut. Donc, effectivement, on peut penser que l'énergie va être de plus en plus réduite en volume et performante. Donc oui, on pourrait vraiment arriver, et on arrivera à baisser le volume, le poids et ainsi de suite, bien sûr. Mais il y a quand même des notions qui font que le sabre laser avec la lumière qui s'arrête brutalement, je suis désolé de casser un mythe, mais ça ne peut pas marcher. Et donc, on est vraiment plutôt sur un sabre plasma. Ça aurait fait beaucoup plus de sens physique que le sabre laser. Voilà. Bon, alors après, le sabre plasma, il ne change pas trop de couleur, mais ce n'est pas grave. Et il ne fait toujours pas bzz bzz quand on bouge. Hein. Et ça, je crois qu'on peut s'en passer. Donc, maintenant qu'on a fini de découper des gens avec les lasers, on va passer à des choses quand même nettement plus sympathiques. Et notamment, on va aller se balader un petit peu. Donc, à partir des années 50-60, je ne me rappelle plus exactement la date. Je crois qu'Arthur Clarke a écrit sa nouvelle « Le vent venu du soleil » au début des années 60, j'en suis pas certain. Donc, on parlait effectivement de voiles solaires. Et puis, Gilles Dargir, enfin, Gérard Klein, Cordwainer Smith et tout ont utilisé ce genre de choses et ça a été repris par le vaisseau du Count Dooku dans Star Wars. Bon, donc là, Simplement, c'est le fait que les photons issus du Soleil venaient pousser effectivement une voile extrêmement légère. Donc, ce genre de choses existe. Il y a quelques tentatives qui sont réalisées essentiellement par des Japonais. Donc, vous avez ici, on va éviter quand même trop les équations, mais juste, normalement, lorsque vous avez un corps qui a une masse m et une vitesse v, on appelle la quantité de mouvement, le produit des deux, m fois v. Bon. Le photon, lui, il n'a pas de masse. Mais il a une caractéristique similaire qu'on va appeler l'impulsion. Ça va être le rapport de son énergie sur sa vitesse. Et donc, on va retrouver une loi de conservation qui est que l'absorption du photon par la voile entraîne un recul de la voile. Donc, la voile est poussée par les photons, les fameux vents solaires. Et donc, la cible va reculer suivant cette relation-là, fonction de la constante de Planck et de la longueur d'onde. Bon, bien sûr, sur Terre, quand vous éclairez, par exemple, un mur, le mur ne recule pas. Par contre, quelque chose d'extrêmement léger et en dehors de la gravité, on va pouvoir effectivement le projeter, enfin, du moins le faire bouger. Donc il y a deux expériences qui ont été menées au Japon. La première, c'est d'envoyer un voilet solaire vers Vénus qui est parti en 2010. Bon, je n'ai à vrai dire aucune idée de quand il arrivera. Et puis un autre, c'était désorbiter les satellites pour éviter les débris spatiaux, notamment à l'aide d'une voile solaire qui serait un peu les boueurs de l'espace. En gros, ça utilise des voiles solaires carrées, ultra légères. Hein. C'est 10 à 20 mètres carrés de polymère de seulement 7 microns 5 d'épaisseur. Donc c'est très très léger. Mais ça suffit pour aller propulser une toute petite masse quand on s'est arraché à la gravité. Donc, on va revenir maintenant au laser, puisque la voile solaire marche essentiellement avec... Même si on peut imaginer, effectivement, un laser qui viendrait propulser un femtosatellite jusqu'aux étoiles. Il y a des gens qui sont en train de réfléchir à des notions de tout petits satellites qui pourraient être accélérés à l'aide d'un laser et envoyés en l'espace d'une cinquantaine d'années vers l'étoile la plus proche. Ça, techniquement, ça semble c'est réaliste, sauf qu'on ne sait pas encore comment, je dirais, contrôler le laser dans certaines zones pour vraiment avoir l'accélération que l'on souhaite. Mais si on en revient donc à l'idée que le photon, ça peut permettre de pousser une masse, venons-en maintenant à ici le rayon répulseur. Donc voilà une photo que j'ai prise il y a quelques années d'un dinosaure qui voyait arriver une comète qui venait frapper la surface terrestre. Le dessin du fameux choc des mondes paru là aussi au rayon fantastique il y a quelques années, il y avait eu un film sur la question. Et puis ici le film avec Bruce Willis où une comète menace la Terre, mais Bruce Willis avec ses petits bras musclés va arriver à sauver le monde. Donc il va faire sauter la comète à l'aide d'une bombe, si je me souviens bien. Sauf que les dinosaures, ils n'avaient pas Bruce Willis, donc ils sont morts. Voilà, ça leur apprendra à ne pas avoir l'équivalent de Bruce Willis. Maintenant, qu'est-ce qui est envisagé? Ce qui est envisagé, c'est les techniques de ce genre-là. Donc, pour éviter une collision entre la Terre et un astéroïde, c'est façon Piver ou des Woodpeckers de venir picorer la surface de l'astéroïde à l'aide d'impulsions laser, de sorte à freiner l'astéroïde. Donc vous avez ici par exemple un système tel qu'il est imaginé, de laser pulsé, toujours femtoseconde, vert, jaune et bleu, bon, peu importe à la limite. Et l'idée, c'est simplement de retarder l'astéroïde d'une distance égale au diamètre de la Terre. En termes clairs, si l'astéroïde vient percuter la Terre, le retarder pour qu'il passe juste à côté. Alors, comme vous allez le voir ici, en fonction de la masse, ça ne va pas se faire tout seul. Supposons que je sois sur un petit astéroïde qui ne fait que, un petit maigrelet, 10 millions de kilos. Allez, 10 millions de kilos, si j'envoie 10 000 kilowatts, hein, voilà, il va me falloir quand même ici, on va dire, un centième d'année pour arriver à le freiner. Bon, ça reste raisonnable. Si je tombe sur un petit monstre de 10 puissance 14 kilos, et que j'envoie toujours 10 000 kilowatts, vous voyez qu'ici, je vais être plutôt sur un siècle pour arriver à le freiner. Donc, ce n'est pas au point, bien sûr. Mais effectivement, pour freiner des débris qui pourraient venir en collision avec la Terre, s'ils ne sont pas trop massifs, ça peut être une solution, à condition, par exemple, d'installer ces lasers soit sur un satellite artificiel, soit sur la Lune, pour ne pas perdre la puissance optique à devoir traverser l'atmosphère. Et puis nous avons le rayon tracteur avec la seconde grande phrase de Star Wars en français. Nous sommes comme attirés par un aimant laser. Bien sûr, le laser est aimanté, tout le monde le sait. Hein, chaque fois que j'appuie là-dessus, toutes les pièces de monnaie arrivent vers moi. Bon, c'est clair. Bon, toujours est-il que le rayon tracteur, ben, ça va être l'inverse du rayon répulseur. Et donc, vous avez ici des images de Star Trek, typiquement, ou de ce grand film, visiblement, où vous avez une soucoupe volante qui est en train de kidnapper une vache et l'armoire de la grand-mère. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. Et comment ça marche ? Alors, vous avez cette notion qui s'appelle la pince optique. La pince optique, vous voyez, c'est en fait le faisceau laser, quand vous le focalisez, quand vous cherchez à faire un point laser le plus petit possible, vous avez ici un goulot d'étranglement qui fait que le laser va donc se rétrécir pour ensuite de nouveau s'élargir un petit peu plus loin. Et dans cette zone-là, qu'on appelle le waste, ben, les lois de la physique sont inversées. C'est-à-dire qu'au lieu que votre photon repousse une cible, ben, ça va jouer le rôle d'un ressort dans cette petite zone-là. Ça va jouer le rôle d'un ressort de rappel par rapport à une microparticule. Et donc, dans cette petite zone-là, le gradient des forces va être inversé. Et ça va permettre, typiquement, d'aller manipuler ben, des cellules, des brins d'ADN, des choses comme ça. Donc, il y a pas mal d'applications en biologie pour manipuler vraiment des toutes petites des corpuscules, tout petits corpuscules. On n'en est pas encore à arrêter un vaisseau spatial. Bon, alors, je vous fais grâce ici. Bon, vous voyez le gradient des forces qui est inversé, ok. Bon, vous voyez le genre de manip qu'il faut monter, ça ne se fait pas non plus sur le coin d'une table. Il y a quand même énormément d'optiques à aligner. Et juste pour vous donner ici un ordre de grandeur, les particules qu'on arrive à piéger dans le waste sont de l'ordre de 10 nanomètres à 10 microns et des forces qui sont de l'ordre de pico-newton. Donc c'est vraiment de toutes petites forces qu'on arrive aujourd'hui à piéger. Toutes petites particules. Puis après, vous avez le rayon tracteur, de nouveau, pour prélever des poussières cosmiques. Alors là, c'est un autre type, c'est plus la pince optique, c'est ce qu'on appelle un faisceau de Bessel, c'est, vous l'avez représenté ici, en fait ce sont des anneaux concentriques qui présentent la particularité, au lieu de pousser votre cible sous la pression des photons, ben, ça va les attirer. Et donc ici, c'est comme si vous aviez des photons émis par le côté opposé à votre faisceau laser. Et donc la particule recule vers la source au lieu d'avancer. Donc ça, c'est quelque chose qui est actuellement utilisé pour prélever des poussières cosmiques par la NASA. Donc ils envoient des faisceaux laser concentriques comme ça, et ils arrivent à piéger des particules, à les ramener pour pouvoir les analyser. Bon, la téléportation, je suppose que vous avez vu la conférence du président. Donc, en plus, c'est super compliqué, et je suis beaucoup moins brillant que lui. Donc on va surtout parler de voyage dans le temps. On a imaginé, bien sûr, dans Blake et Mortimer, que le faisceau laser permettrait de voyager dans le temps. Est-ce que c'était si idiot que ça ? Oui, mais pas tant que ça, finalement. En fait, on peut jouer sur la composante du temps et ralentir la course des rayons, c'est-à-dire ralentir la lumière. En fait, vous avez la possibilité d'utiliser des prismes qui vont décomposer, donc c'est des cristaux, si vous voulez, qui vont décomposer le signal lumineux en rayons de différentes couleurs. Et les rayons bleus vont arriver en premier, les rayons rouges vont arriver en dernier. Ce qui veut dire que vous allez avoir la possibilité, vous imaginez, vous avez un convoi de voitures, donc les bleus devant, les rouges derrière. Et puis au milieu, un passage à niveau qui coupe le convoi en deux, donc un événement qui se passe. Si ce n'est qu'ensuite, vous allez avoir les voitures, quand elles arrivent à destination, qui reviennent en convoi. Donc ça veut dire que pendant une toute petite fraction de seconde, 10 milliardièmes de seconde, vous pouvez insérer entre le moment où arrivent les rayons bleus et le moment où arrivent les rayons rouges, un événement qui va être totalement invisible temporellement. Voilà. Donc ça peut être quelque chose qui permet de rendre invisible au cours du temps. C'est très particulier. Bon, voir l'homme invisible, bien entendu, donc je vous invite à aller voir Holoman, parce qu'on m'a dit de faire la pub pour le cinéma ici. Donc à 18h30, ça le chaille, ça y est, j'ai fait la pub, c'est enregistré. Voir l'homme invisible, alors, l'idée c'est de venir capter, plier des ondes lumineuses pour rendre les gens invisibles. Alors, il y a une entreprise canadienne qui s'appelle Apostilf qui prétend avoir réussi à créer ce qu'on appelle un métamatériau. Les métamatériaux sont des matériaux qui n'ont pas de propriétés telles que la nature les connaît. C'est-à-dire que ce sont des propriétés qui n'existent pas dans la nature. Et donc là, ils prétendent avoir inventé une cape qui permettrait de courber les rayons de la lumière et d'enlever aussi les signatures thermiques. Bon, j'avoue qu'il est impossible d'avoir de vrais renseignements par rapport à l'activité de cette société, puisqu'elle est financée par l'armée américaine et que, visiblement, tout est secret, si ce n'est quand même que le projet est abandonné depuis 2015, donc ça ne devrait pas marcher si bien que ça. Mais il existe aujourd'hui des possibilités très très limitées de courber les rayons de la lumière et dans des zones très focalisées de quelques microns, d'empêcher la lumière d'arriver. Donc c'est par des jeux de miroirs, des choses comme ça. Bon, des nanomatériaux. Une autre application qui est assez rigolote, c'est il y a quelqu'un qui a imaginé l'idée de cacher la Terre si quelqu'un venait l'observer, au cas où on aurait des extraterrestres qui voudraient venir nous envahir. Et donc, 10 heures par an, il suffit d'envoyer un laser de 30 mégawatts, trois fois rien, hein, à 600 nanomètres, donc qui recopie la couleur du Soleil, pour masquer le passage de la Terre lorsqu'elle passe devant le Soleil et que nous sommes observés par les méchants extraterrestres qui viendraient éventuellement nous envahir. Bon, il y a des gens qui ont été payés pour ça, excusez-moi, j'y peux rien. Voilà. Alors, après, ça ne leur a pas suffi. Ils se sont dit, oui, mais là, on cache juste le fait que quand la planète passe devant le Soleil, on cache juste l'ombre. Ben, ce n'est pas suffisant. On pourrait aussi faire croire que la planète, elle est morte. Donc, en fait, on pourrait avoir des lasers qui couvrent certaines raies d'absorption entre 0 et 20 microns. En fait, vous envoyez différentes longueurs d'onde entre la gamme 0 et 20 microns pour masquer le fait qu'il y a de l'absorption atmosphérique. Donc, faire croire qu'il n'y a pas d'oxygène, par exemple. Et donc faire croire que la planète n'a pas d'atmosphère. Donc ça ne vaut pas le coup de venir nous envahir. Bon, après, il faut être honnête, on est un peu loin quand même dans l'espace et l'invasion ne nous guette pas pour tout de suite. J'espère simplement ne pas être démenti dans l'heure qui suit. Après, vous avez aussi une application des lasers, c'est les yeux de robot. Ce qui a été mon premier métier d'ailleurs, donc on va en parler. Voilà, là typiquement, vous avez ici le robot Curiosity, et le programme ChemCam de caméra chimique, où on envoie, vous avez un laser de forte puissance qui est là pour vaporiser le sol et la roche et faire une analyse chimique de la roche. Et donc, notre travail, c'était de focaliser, c'est-à-dire de faire le point focus, le spot le plus petit possible du laser de puissance pour vraiment concentrer l'énergie et vaporiser la matière. Et à partir de là, donc, nous, on donnait la distance entre les yeux du robot et la cible. Après, ça servait aussi au robot à détecter des obstacles, à les éviter, et ainsi de suite. Ça, c'est de la cartographie d'une voiture qui utilise un laser, donc un véhicule autonome, pour scanner un petit peu tout ce qui se passe autour d'elle. Donc voilà, c'est un scan qui a été diffusé il n'y a pas très longtemps. Donc c'est le même principe que les robots, hein, donc véhicule autonome. Et pour conclure, parce que sinon je vais me faire gronder, parce qu'on m'a dit de finir un peu à l'avance, voilà ce que je fais au quotidien. Typiquement, donc, on travaille dans mon groupe sur de la mesure de vibrations laser. Alors, ça peut être pour des applications géophysiques, ça peut être pour des applications mécatroniques, c'est-à-dire du contrôle qualité de pièces mécaniques, ce genre de choses. Donc voilà typiquement les systèmes qu'on va mettre en place, avec des applications qui peuvent être un petit peu singulières. Je vais y revenir. Et puis, on mesure aussi la vitesse, donc vélocimétrie laser. On a créé une start-up qui mesure en fait la vitesse et la direction du vent en détectant une particule d'un micron à 15 mètres qui réfléchit suffisamment de lumière pour donner de l'information. Et ça sert notamment à optimiser l'implémentation de champs d'éoliennes et aussi l'orientation des pales lorsque les éoliennes sont en fonctionnement. De la même façon, on peut détecter, je crois qu'on va le voir, des mélanomes par ce même principe. Je vais donner 2-3 exemples. Voilà pour la détection de mélanomes. Alors là, ce n'était pas un mélanome, heureusement, c'était sur mon bras. On m'a mis de la crème de type Kyptol, donc de la crème irritante, sur une partie du bras. Et on a scanné avec un faisceau laser sur une partie où il n'y avait pas de crème, cette partie-là, et puis la partie où la crème avait été apposée. On voit qu'au bout d'une minute, bon, on ne détecte pas grand-chose. Par contre, au bout de 10 minutes, pardon, on voit que là, ma peau a bien vascularisé, donc j'étais rouge et ça grattait, je peux confirmer. Et au bout d'une demi-heure, on voit que l'effet de la crème commence à baisser. Or, de quoi a besoin une tumeur pour se nourrir? Elle a besoin de sang. Et donc, elle a besoin de vasculariser. Elle crée son réseau de vascularisation pour se nourrir. À partir de là, si on est capable de détecter la vascularisation de la peau, on est capable de dire si un grain de beauté qui en apparence paraît parfaitement bénin n'est pas en réalité une tumeur. Aujourd'hui, on n'a que des systèmes basés sur des espèces de loupes éclairées. Et on regarde la forme du grain de beauté pour dire si c'est une tumeur ou pas. Ça reste très archaïque. Ça veut dire que 70% des opérations qui sont effectuées pour enlever un mélanome sont des opérations inutiles, des opérations de prévention, parce qu'on ne sait pas détecter de manière sûre un mélanome. Et si on ne le détecte pas, le patient meurt en 6 mois. Et si on fait une biopsie sur certains types de mélanomes, on le tue en 3 mois. Donc on ne prend pas de risque, on coupe. Sauf qu'il y a chimiothérapie derrière, et que ça, ce n'est pas sympa. Donc si on peut arriver à faire en sorte que la détection soit un petit peu meilleure, ça sera quand même pas plus mal. Alors voilà, de manière plus prosaïque, bon, ça c'est le capteur de vibration qu'on a mis au point. Donc le but c'est, vous avez une courbe verte, c'est le déplacement de la cible qu'on veut mesurer. Et là ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de bouger le capteur, on va le positionner un petit peu ailleurs et on va lui dire débrouille-toi pour reconstituer le déplacement de la cible. Donc vous avez en bleu les franges d'interférence qui apparaissent, qui vont vous donner l'information qui vont permettre de reconstituer le déplacement, et en violet le déplacement qui est reconstruit. En réalité, quand on ne bouge pas le capteur, l'opération prend moins de 20 millisecondes. Par contre, pour un film, c'est pas sympa, on n'y voit rien. Hop. Après, on a aussi la possibilité ici de mesurer la propagation du son. Donc on fait en fait un microphone laser. Et là, par exemple, on a mis aussi... Donc, c'est simplement que quand le son vient couper le faisceau laser, il y a une variation locale de l'indice de réfraction, il y a une pression qui est appliquée. Et vous avez ici la même chose avec un obstacle. Donc vous allez voir la propagation et la réflexion du faisceau laser qui est mesurée. Donc on peut mesurer les frontes d'ondes acoustiques. Et vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des ondes acoustiques, des ultrasons à 40 kHz. Donc c'est fait pour écouter des sons qui ne sont pas audibles. Bon, on peut aussi réaliser ce qu'on appelle une cape d'invisibilité, c'est-à-dire que ici, vous mettez dans c'est un métamatériau qui va permettre de contrôler la propagation du son, et que vous mettiez un objet au centre ou pas, la propagation du son n'est pas modifiée. Ça veut dire que en fait ici, en ce centre-là, l'objet n'est jamais touché par une onde sonore. Donc ça permet de faire de l'isolation parfaite. Ça, c'est un travail que l'on fait en collaboration avec l'Institut Fresnel à Marseille. Donc nous, avec nos lasers, on vérifie par où passe le son et si la présence de l'objet perturbe la propagation du son ou pas. Donc on vérifie les propriétés. Et ce sont les gens de Marseille qui ont réalisé la structure. Bon, ça, je ne peux pas vous le faire écouter. Oui, autre chose pour conclure. On travaille aussi sur les systèmes auditifs de criquet. Vous avez ici, sur la patte avant du criquet, il a un système auditif qui est extrêmement performant. Vous voyez, c'est un système qui est quand même extrêmement petit. Et personne ne peut comprendre comment un tel système mécaniquement si simple peut arriver à percevoir des sons dans une bande passante, donc une gamme de fréquences aussi importante et avec des possibilités de détection extrêmement sensibles. Et donc l'idée, c'est de comprendre, à l'aide de notre microphone laser, comment le son va se propager autour du système auditif, comment la membrane va vibrer, mais aussi comment l'air se propage autour du système auditif, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Bon, je ne détaille pas parce que le temps passe. Voilà, donc juste avant de conclure, je voulais vous faire écouter quelque chose. Donc j'espère que ça va marcher. Bon, je l'ai lancé, on verra bien si ça marche. Ça n'a pas l'air. Bon, il faut... Ah. Donc, si vous connaissez la chanson, voilà, au moins vous l'avez reconnue. Alors bien sûr, c'est extrêmement bruité. On n'est pas là pour faire un micro qui va capter des sons audibles, hein, parce que là, on n'est pas performant. Mais ça vous permet de voir ce qu'on est capable de capter. Donc là, en fait, on a effectué un tir pour pour capter simplement la musique dans une pièce où il y avait des gens, on était une quinzaine de mètres. Après, nous, ce qui nous intéresse, c'est détecter des sons inaudibles, donc plutôt des ultrasons, pour faire du contrôle industriel. Voilà. Donc c'était juste pour vous faire écouter un exemple de ce qu'on est en capacité d'enregistrer. Et puis merci pour votre attention, et puis juste un petit coup de pub pour finir. Donc on a sorti une anthologie de science-fiction avec mon camarade Jean-Claude Duniac, où chaque texte de science-fiction est inspiré des thèmes de recherche du laboratoire où je travaille, où chaque nouvelle de science-fiction est commentée par un chercheur du labo. Alors les textes sont écrits par des gens totalement inconnus, Pierre Bordage, enfin des auteurs pas très bons, hein, Catherine Dufour, Xavier Montméjean qui va faire sa conf de suite après, donc c'est pour ça que j'ai du mal. Voilà, et donc chaque texte est commenté par un spécialiste du laboratoire pour dire, ben voilà, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, ce qu'on pourrait peut-être faire demain, et ce qui semble, en l'état actuel de nos compétences et de nos connaissances, parce qu'il faut bien rester modeste, ce qui semble impossible aujourd'hui. Ça permet de remettre en perspective réellement le rêve de l'auteur de science-fiction et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Et c'est vrai que ça a permis aux auteurs, je dirais, de voir par rapport à leurs hypothèses si c'était complètement farfelu ou pas, et ce n'était pas le cas. Et ça a permis aux chercheurs aussi de réfléchir en se disant « Ah mais quand même, il y a quelques hypothèses qui peuvent être sympas. » Donc, coup de pub, je crois qu'il reste un ou deux exemplaires à la librairie, c'est super bien parti hier, donc le coup de pub est gratuit. Voilà, donc merci pour votre attention, parce que je crois que là, il va falloir, on a peut-être le temps pour une question éventuellement, si je ne vous ai pas totalement épuisé. Et après, il y a Xavier Montméjean qui parle de Sherlock Holmes. Je vous ai crevé, là, c'est bon. Ah, j'en ai un qui bouge encore. Tout à fait. Oui. Disons que l'avantage, c'est que les micro-ondes vous donnent une information de scène. Donc en fait, ça vous donne une information volumique très importante, alors que le laser va vous donner une information très ponctuelle. Ce qui fait que si on tire avec un laser au niveau de l'océan, on risque d'avoir éventuellement la hauteur d'une vague ou des choses comme ça, et ce n'est pas franchement ce qui va être intéressant. Ce qui sera beaucoup plus intéressant, c'est sur une scène relativement importante, d'avoir la moyenne de hauteur d'eau des océans. C'est pour ça que dans ces cas-là, il est préférable d'utiliser les micro-ondes. Voilà. Alors que quand on est près des côtes et quand on veut cartographier de manière plus précise sur un lac ou des choses comme ça, dans ces cas-là, souvent, les micro-ondes ne sont pas assez précises. Et vous avez une information globale, mais qui n'est pas réellement exploitable. Donc, suivant les cas, il est préférable d'utiliser micro-ondes ou optique. De toute façon, c'est basé sur les mêmes équations, c'est du Maxwell dans les deux cas. C'est simplement que l'interaction, c'est-à-dire la grandeur de la longueur d'onde et l'interaction avec les corps solides et liquides, du fait de la différence de longueur d'onde, change un petit peu les propriétés et permet une détection plus ou moins fine. Ils sont épuisés, là. Oui, il y a longtemps, oui. Pour intercepter des missiles, notamment. Alors, je l'ai enlevé parce qu'en fait, alors, à part l'USS Ponce, qui est toujours en activité, vous aviez le Laser Avenger. Bon, super titre. Alors là, c'était un canon laser qui était installé sur des jeeps pour tirer sur les avions. A priori, ça n'a plus l'air d'être réellement utilisé sur le terrain. Et de la même façon, vous avez effectivement sur le nez de certains Boeing, vous avez des antimissiles qui avaient été mis au point. Il semblerait que c'était au niveau expérimental, mais pas réellement déployé. Après, la grosse difficulté avec l'armée américaine, c'est qu'elle communique beaucoup sur les projets futuristes. 95% sont abandonnés, sans trop qu'on le sache. Je pense notamment à cette espèce de câble d'invisibilité, etc. Il y en a plein d'autres. Donc, ils communiquent sur plein de choses. Ils communiquent aussi sur les fantassins virtuels, dont les hologrammes qui seraient envoyés en avant des troupes pour que les ennemis tirent sur les hologrammes et pas sur les humains. Ça aussi... techniquement, on comprend à peu près comment ça peut marcher, comment ils arrivent vraiment à le réaliser, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est simplement de la propagande. Il est impossible d'avoir de vraies informations. Quant à l'armée française, c'est la grande muette, elle ne communique sur rien, comme ça au moins c'est plus simple. Donc entre ceux qui communiquent trop sur des choses qui semblent futuristes et totalement impossibles, mais est-ce la réalité et quel est l'état d'avancée, et ceux qui ne communiquent pas du tout, dès qu'on touche à l'armée, c'est compliqué de savoir où on en est. Mais oui, sur le Boeing antimissile, ça a été mis au point. Je n'ai pas connaissance que ce soit toujours utilisé. Oui ? Oui, oui, oui. Alors effectivement, j'aurais pu aussi la détailler, mais voilà, j'ai des grands signes qui me disent « faut couper », donc j'ai sauté les trucs. Et ensuite, celle-là, elle est particulièrement ardue à faire passer. Voilà, donc parce qu'il y a des... Voilà. En fait, on part de deux zones, on en crée une troisième qui est totalement virtuelle. Et en général, quand je parle de cet aspect-là, les gens me haïssent profondément. Donc je l'ai banni de ma conférence grand public parce que j'en avais marre qu'on m'explique que j'étais un mauvais prof et qu'on ne comprenait rien à ce que je disais. Voilà. Merci encore pour votre attention.